les roses, être marchand de thé à Formose, savant marin maçon, écrire des chansons. J'aurais pu t'épargner mille croix, j'aurais pu t'embrasser mille fois, te faire tourner dans mon cinéma, ne plus rêver au-delà de toi, de temps perdu. Vouloir le rattraper, c'est du temps perdu, comme les illusions de nos 20 ans, du temps perdu. Ce qui est important, c'est le temps de l'inconnu, avec tous les bonheurs qui nous tendent inattendus. Laisse tomber, c'était du mauvais temps, de temps perdu. Avec moi, tu as pris du bon temps, ça continue, et c'est un grand coup de...
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné, et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors, après avoir mis la Kanaky à feu et à sang, Macron a décidé, comme vous le savez, de dissoudre l'Assemblée nationale et a provoqué ainsi des élections législatives en France, dans les départements et les territoires d'outre-mer, et donc en Kanaky. Le 7 juillet 2024, Emmanuel Djibaou, militant indépendantiste, a été élu dans la deuxième circonscription de la Nouvelle-Calédonie. Le soir même, les résultats étaient donnés à la chaîne de radio de Nouméa.
71% des Calédoniens sont allés voter hier. Une participation exceptionnelle pour des législatives. Ils étaient moins de 40% en 2022 à 17h, preuve de l'intérêt porté par les électeurs pour ce scrutin.
Et quand on regarde les moyennes en Nouvelle-Calédonie comparativement aux autres scrutins qui ont eu lieu précédemment, on peut noter des pourcentages de participation qui, dans certaines communes, avoisinent les taux de participation qui avaient eu lieu au cours du deuxième référendum. C'est une vraie performance. Et je pense qu'à notre humble niveau, nous, en Nouvelle-Calédonie, on peut s'enorgueillir, malgré tout ce qui se passe, malgré le contexte, d'une certaine manière aussi de la victoire de la démocratie.
Il faut remonter en 1973 pour retrouver un taux de participation similaire pour des législatives. Cette année-là, 73% des électeurs s'étaient déplacés pour voter. C'est à ce moment-là que Roch Pidjo, premier député kanak autonomiste, fut élu.
Ça faisait 38 ans qu'un indépendantiste, un kanak indépendantiste, n'avait pas été élu à l'Assemblée nationale. Le dernier, c'était Roch Pidjo, qui avait été le premier député kanak en 1964 et qui avait siégé au Palais Bourbon jusqu'en 1986. Donc on peut dire que 38 ans plus tard, M. Tshibaou est en effet s'inscrit dans cette lignée de députés indépendantistes à l'Assemblée nationale et fait un retour que l'on peut qualifier de triomphal.
Un scrutin exceptionnel par la participation, mais aussi par les résultats obtenus.
Ce que l'on peut dire, c'est que les scores des deux candidats indépendantistes n'ont jamais cumulé autant de voix que depuis les élections législatives existent en Nouvelle-Calédonie. Que lorsque l'on additionne les voix de M. Tshibaou et de Mme Nesline, on arrive en effet au chiffre presque incroyable de 83 123 électrices et électeurs. C'est la première fois que l'écart est favorable aux représentants indépendantistes, avec quand même presque 10 300 voix de plus. Donc on assiste à ce qu'on peut appeler une bascule électorale et qui ouvre une nouvelle séquence politique.
Emmanuel Tshibaou et Omeyra Naïsline ont réussi à obtenir un résultat exceptionnel malgré un découpage des circonscriptions défavorables aux indépendantistes mis en place en 1986 par Charles Pasqua.
Le lendemain de son élection, Emmanuel Tshibaou était interrogé par deux journalistes de la chaîne Calédonia.
Et Emmanuel Tshibaou a 57,44% dans la deuxième circonscription, soit 51 724 électeurs. Tout de suite, pour commencer, pour vous, Emmanuel Tshibaou, qu'est-ce que ça signifie d'être le premier député kanak indépendantiste depuis Roch Pidjo ?
C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant dans la mesure où moi j'ai connu le député, j'ai connu aussi ses engagements. En étant gamin, on allait à la conception là-bas, à la chefferie. Donc de marcher dans ses pas, c'est un honneur de retrouver finalement cette parole, l'opportunité de la porter à sa suite, dans le prolongement de ce qui a été le combat de nos anciens pour la dignité, l'équité, la justice au sortir de l'indigénat. Donc ça me fait quelque chose. Je dirais que c'est vraiment un honneur pour moi.
Emmanuel Tshibaou, hein, vous allez donc rejoindre le nouveau Front Populaire. Comment allez-vous travailler avec ce groupe dans votre objectif d'accession finalement à la pleine souveraineté ?
Déjà, je n'ai pas donné cette indication, je ne sais pas d'où est-ce que cette information elle sort, mais merci. C'est sûr qu'on a une sensibilité plutôt portée à gauche. Donc, du fait qu'on a eu les soutiens qui étaient portés en ce sens lors des échanges sur le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral aux élections provinciales, pour l'instant, je redis encore, c'est toujours en discussion. Donc c'est ça l'information que je peux partager.
Entendu. Alors restons au pays. Je vous le rappelle, un taux de participation record pour ces élections législatives avec 71,35%. Emmanuel Tshibaou, vous avez bénéficié de 18 798 voix supplémentaires. On le voit à l'écran, hein, il y a un report de voix. Comment allez-vous considérer l'avis des Calédoniens ? Je pense notamment à ceux qui ont voté pour vous, qui ne sont pas kanak.
Déjà, c'est de considérer que l'électorat, il se décline pas en termes d'ethnie. Hein, parce que c'est pas parce qu'on est kanak qu'on est indépendantiste, et c'est pas parce qu'on est calédonien d'origine européenne qu'on est loyaliste. C'est d'abord sur les idées que chacun d'entre nous a convenu qu'il fallait aborder la problématique, ou au moins la thématique sur laquelle les législatives elles étaient portées aujourd'hui. J'ai fait campagne pour promouvoir le « nous », parce que je pense que même au plus profond de la crise dans laquelle on est engagé aujourd'hui, à la différence de 84, on a contribué, on a façonné, on a nourri les échanges en conjuguant ce « nous » depuis 88 et qu'on a confronté en 98. C'est le projet de société qu'il faut nécessairement repenser, réformer, et puis pas simplement sous ses aspects, comment on dirait-on, institutionnels. Il y a une analyse qu'il faut... Enfin, il y a une solution institutionnelle qui est une partie de la réponse. Mais aujourd'hui, même au terme de ce qui a été les deux campagnes qu'a apporté le FLNKS après les deux référendums de 2018-2022, on ne peut pas faire l'économie de ce qui s'est passé le 13 mai. Et que ce projet de société qu'on a présenté, qui a, je pense, touché au-delà de l'électorat, strictement kanak ou kanak, c'est bien la preuve que le nous aussi, il est encore, on croit encore à ce nous. Donc c'est là où je dis que cet électorat-là, quand on parle des Océaniens, quand on parle de l'urbanité dans les communes de l'agglo pour la deuxième circonscription, c'est là où les émeutes se sont tenues, c'est là où il y a eu ces violences. Je pense que c'est ce qu'il faut re-questionner aussi. C'est pas juste répondre à une problématique économique simplement en réinjectant des flux financiers. Il faut poser la base d'une réflexion plus apaisée sur les politiques publiques autour de Nouméa et Aglo, bon, on a vu le résultat. Et peut-être, il faut prendre sa part dans ce qui s'est passé et répondre, en tout cas, sur la refonte du projet de société. J'ai vu que le président Macron nous a fait une lettre en ce sens, en disant qu'il fallait refonder le contrat social. Bon, dans tact, il ne faut pas simplement le dire, il faut aussi nommer des émissaires qui soient pertinents, parce que c'est la seule attente que l'on a. On a entendu aussi le cadre des discussions qui s'engageaient, que tout le monde souhaite voir et engager. Le projet de loi constitutionnelle, c'était un échec, c'était un obstacle à la reprise des échanges. Aujourd'hui, on avance dessus. Comment aller chercher les voix. Moi, c'est plutôt sur la construction du nous que j'ai porté mon engagement de campagne avec Amandine Darras.
L'élection d'Emmanuel Djibaou, député indépendantiste de Kanaky, ne suffira peut-être pas à ramener la paix au pays. La nouvelle provocation de la justice coloniale, qui avait décidé de déporter en France pendant la campagne électorale plusieurs militants politiques indépendantistes, avait déjà entraîné des émeutes et risque de créer de nouveaux affrontements tant que les prisonniers ne seront pas de retour au pays.
On en vient au retour des violences en Nouvelle-Calédonie après le transfert de plusieurs leaders indépendantistes en métropole, mis en examen et placés en détention provisoire. Ils sont soupçonnés d'avoir orchestré les émeutes qui ont fait 9 morts, dont 2 gendarmes, et des dégâts chiffrés à plus d'un milliard d'euros. Leur mouvement, la CCAT, exige leur libération et leur retour immédiat dans l'île. On voit ça en image avec Éric Pelletier pour France Télévisions.
Des feux de poubelle dans l'obscurité à Nouméa. Nouveau barrage improvisé par les manifestants. En Nouvelle-Calédonie, la nuit est tombée sans faire redescendre les tensions. Plus tôt, à Dumbéa, non loin de là, face à face tendue, toute la journée, des affrontements ont opposé forces de l'ordre et jeunes indépendantistes.
Nous, on n'est pas en guerre contre les Français, non. On est en colère après le gouvernement français.
On prend un qui vient ici et là.
Rue par rue, les policiers tentent de regagner le terrain perdu. Plusieurs bâtiments publics ont été pris pour cible, comme ce commissariat de la police municipale incendié.
Ça redevient comme les débuts, à savoir au jour le jour, à vivre au jour le jour, parce qu'on ne sait pas, de ce qui se passe en fait. On ne maîtrise plus rien.
Du côté des manifestants, une seule revendication. Au cœur de leur colère, le transfert vers l'Hexagone de 7 militants poursuivis par la justice, dont Christian Théin, figure indépendantiste accusée par les autorités d'avoir encouragé les émeutes du mois dernier. Il est désormais incarcéré à Mulhouse, à plus de 17 000 km de la Nouvelle-Calédonie. Depuis samedi, les incidents reprennent un peu partout sur le territoire, y compris loin de Nouméa, où ces manifestants coupent des arbres pour bloquer les routes. Dans ce climat d'extrême tension, les autorités évoquent deux victimes, un jeune homme en état de détresse respiratoire, décédé après s'être rendu sur un barrage, et un automobiliste mort dans un accident de voiture en faisant demi-tour à l'approche d'un point de blocage.
Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir l'anthropologue au CNRS, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour Benoît Trépied.
Bonjour.
Ces mouvements, cette décision en fait de transférer ces suspects en métropole est nature d'après vous à relancer le mouvement d'émeutes qu'on a connu au début du mois de mai en Nouvelle-Calédonie?
C'est ce qu'on voit se dérouler effectivement sous nos yeux. Dès leur garde à vue, à vrai dire, tout le monde a immédiatement paniqué à Nouméa. On a vu que dès qu'ils ont été convoqués, la ville s'est fermée. Mmh. Et puis dès qu'on a appris qu'ils étaient non seulement mis en examen, mais surtout exilés en Nouvelle-Calédonie, en France. À ce moment-là,
en métropole,
dans l'Hexagone.
Voilà.
À partir de là, la Calédonie a repris feu de plus belle, et effectivement, comme ça a été dit dans votre reportage, de façon encore plus dramatique, puisque en fait, personne ne contrôle rien, et qu'en plus, le feu s'étend, ce qui n'était pas le cas précédemment.
À 17 000 km de chez eux, c'est ça le véritable problème, parce que leur implication dans ces événements, elle ne fait guère de doute, et d'autres mouvements comme l'Union calédonienne le reconnaît bien volontiers.
Alors, il y a une procédure judiciaire qui est lancée, qui a sans doute sa justification. Le vrai enjeu est là où vraiment ça a manifestement mis le feu, relancé le feu en Calédonie, c'est effectivement le fait de les avoir envoyés aux antipodes, et même envoyés aux antipodes, mais en étant séparés. C'est-à-dire que là, on a affaire ce sont des responsables politiques, avant toute chose, qui se trouvent isolés au milieu de prisonniers de droit commun, dans des centrales de France. C'est un choix du juge des libertés qui est une procédure dont je ne connais pas les tenants et aboutissants, mais on sait que politiquement, c'est une fois de plus la politique du pire qui s'applique en Calédonie, puisque ce qu'il faut, c'est une recherche avant tout d'apaisement pour calmer le jeu. C'était un petit peu ce qui était en train de se passer. Et on voit que immédiatement, ce choix de la répression, du durcissement, qui passe par cette déportation qui rappelle quand même de mauvais souvenirs en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est ce qui s'est passé en 88 avec Ouvéa, la fameuse affaire de la grotte d'Ouvéa. D'ailleurs, comme par hasard, cette nuit-là, la gendarmerie de Marais a été attaquée. Donc en fait, on voit se rejouer les mêmes choses, et ça renvoie à une perspective, à une guerre coloniale qui dit pas son nom, mais qui est perçue comme telle localement. C'est ça le gros problème.
Le parquet justifie ce transfert en invoquant la sérénité nécessaire de l'instruction. Sous-entendu, elle ne pouvait pas cette enquête être menée sereinement avec des prévenus en Nouvelle-Calédonie. Vous le comprenez ?
Non, moi, une fois de plus, je ne suis pas dans les rouages de la justice, donc je ne sais pas quels sont les tenants aboutissants, mais le mot sérénité, ça surprend quand on voit en réalité ce qui se passe. Donc là, c'est tout le pays qui n'est pas serein, et y compris la magistrature. Donc, à vrai dire, il y a des possibilités d'internement en Calédonie, il y a des possibilités d'isolement s'il le faut. L'envoi de ces gens en métropole est perçu localement comme une mesure vexatoire, et même politiquement, quelle que soit la justification judiciaire de ce choix, politiquement, c'est vraiment une fois de plus une action qui met de l'huile sur le feu.
La CCAT dénonce des tactiques coloniales, c'est comme ça que c'est perçu ?
C'est comme ça que c'est perçu.
Comme une volonté délibérée d'imposer finalement une forme d'impérialisme.
Si vous voulez, en fait, tout l'enjeu de la Calédonie, c'est pour ça qu'il faut jamais perdre de vue, tout le problème est lié à un problème politique.
Oui.
C'est un problème politique de décolonisation. Je rappelle que la Calédonie, elle est inscrite sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU, qu'il y avait un processus de réconciliation, de construction d'un destin commun entre les anciens colonisés et les anciens colonisateurs. C'était quelque chose qui était en train de créer une nouvelle voie de décolonisation. C'est encore ce à quoi s'accrochent les gens.
Oui.
Mais en fait, plus la politique du pire est mise en œuvre, plus les tensions se ravivent, plus la radicalisation des deux côtés émerge avec des drames tous azimuts et dans tous les camps. Donc les gens sont terrorisés, il y a une haine de l'autre qui monte, il y a des formes de racisme inédites qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps qu'on voit émerger. Et face à ça, en réalité, si on n'apaise pas la situation, si on ne fait pas preuve de discernement politique au sommet de l'État, eh bien, on court à la catastrophe pour tout le monde, en fait.
Hein. Emmanuel Macron, au lendemain de la dissolution, a suspendu le projet de réforme constitutionnelle, réformant donc le corps électoral pour le scrutin provincial prévu fin 2024. Est-ce que ce n'était pas précisément la mesure à prendre et qui aurait dû apaiser une fois pour toutes?
Alors, en fait, il a attendu qu'il y ait 9 morts et qu'il y ait le feu à la Nouvelle-Calédonie pour décider de suspendre un processus dont tout le monde lui avait dit depuis des mois précédemment que ça allait mettre le feu aux poudres, en fait, qu'il ne fallait pas faire ça. Donc la réaction à contre-temps du président ne résout rien. Elle résout d'autant moins des choses que, d'une part, on savait d'ores et déjà, avant même sa déclaration, que le processus était de toute façon bloqué avec la dissolution. Et d'autre part, comme il n'a pas accompagné cette déclaration d'un lancement d'un processus politique de réconciliation, comme l'avait fait Michel Rocard avec les accords de Matignon, etc., comme ça a été juste une déclaration sans suivi politique...
du projet lui-même n'est pas suffisante. Est-ce qu'il ne fallait pas quand même aussi rassurer quand même à la fois les investisseurs et puis aussi les milieux loyalistes en Nouvelle-Calédonie qui se sont sentis trahis par cette suspension?
Oui, alors, le problème, en fait, c'est que dès lors que le feu a pris, en fait, il faut passer à la vitesse supérieure pour l'éteindre. Et que, comme l'avait dit Laurent Fabius en 1985, en Calédonie, la France a toujours fait trop peu et trop tard. Là, typiquement, c'est ça. C'est trop peu parce que maintenant, les gens sur les barrages, c'est plus la question du dégel. Maintenant, c'est la question de l'indépendance. Donc, comment on fait maintenant pour baisser la pression? Comment on fait pour rediscuter posément? OK, quelle forme de décolonisation on veut, tous ensemble? Est-ce que c'est une indépendance? Quel type d'indépendance? Est-ce que c'est en rupture, en partenariat avec la France ou pas? Tant qu'on n'est pas sur ça, en fait, les gens maintenant ne lâcheront plus les barricades et ça ne fait que s'envenimer et ça va finir, s'il n'y a pas une prise en compte au sommet de l'État qu'il faut apaiser les choses, ça va finir par un scénario terrible à l'algérienne où les gens vont partir ou vont s'entretuer, alors que la Calédonie était à peu près le seul territoire où la France était en train de réussir une décolonisation, et ça depuis la mise en place de la méthode Rocard en 88, prolongée avec l'accord de Nouméa en 98, et que tous les gouvernements de gauche comme de droite ont respecté jusqu'au tournant de 2021, du troisième référendum qui a posé un certain nombre de problèmes, et depuis l'affirmation que la Calédonie a tranché, elle reste dans la France, on n'en parle plus. Mais on voit bien que ce n'est pas une réponse. En réalité, on ne peut pas passer outre la revendication des uns et des autres. Il faut concilier les gens, les mettre autour d'une table. Mais la première chose à faire pour ça, c'est d'éteindre le feu. Donc il faut se demander comment le feu a pris. Et d'abord, il a pris à cause d'un problème politique. Et puis après, comment on éteint le feu? C'est pas avec des mesures qui au contraire, remettent de l'huile sur le feu, comme on le voit là maintenant. Et tout le monde est perdant. C'est pas seulement les canards qui disent « Ah, nos leaders sont emprisonnés ». Mais c'est tous les habitants de la Calédonie. Les écoles ont refermé. De nouveau, l'accès aux soins n'est plus assuré. Enfin, c'est vraiment une folie pour tout le monde, en fait, cette situation. Et ça découle de ce choix politique de ne pas avoir de vision de long terme en disant comment on décolonise ce pays, comment on reprend les fils du dialogue. Et c'est tout à fait dramatique et tragique.
Merci beaucoup, Benoît Trépied, anthropologue au CNRS, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, d'avoir été avec nous sur France 24.
Devant mon drapeau de Kanaki. Kawani. Au martyr des Kanaki, la Kanaki vous rend hommage. Merci pour ce grand combat. On continuera cette lutte pour la liberté de Kanaki, pour la mémoire de nos aïeux. C'est pourquoi mon point levé, levant mon drapeau de Kanaki.
Pour Emmanuel Tibaou, vous l'avez rappelé, hein, durant toute votre campagne, vous avez parlé du nous, le chemin à construire ensemble, mais ce chemin, c'est aussi aller jusqu'au bout du processus de décolonisation. Qu'allez-vous défendre pour cela à l'Assemblée nationale?
Pour moi, hein, on parle de la poignée de main, on parle d'accord politique, d'une solution institutionnelle. Ce qu'on peut dire, hein, enfin, il y a d'autres analyses qui sont portées sur le résultat des urnes, mais c'est le postulat de départ. C'est qu'à partir du moment où on est à ce taux de participation exceptionnel qui conforte l'assise des loyalistes autant que des nationalistes, c'est en période de crise, c'est les valeurs refuge. C'est des valeurs qui obligent aussi les partenaires de l'accord à prendre leurs responsabilités pour porter écrire la suite de l'accord de Nouméa. C'est là où les accords de paix, ils ont été inscrits au premier en 88 sur la paix, retirer les militaires, libérer les prisonniers politiques, et puis Oudinho sur le processus de rééquilibrage et la formation, etc. 98, l'accès à la ressource minière. Mais c'est pareil, l'idée de cheminer ensemble, elle se fait pas simplement, enfin c'est un principe qui est inscrit dans les termes de l'accord, mais qui nécessite du temps. C'est l'histoire du corps électoral gelé. Et à partir du moment où on s'inscrit dans cette perspective-là, c'est ce vers quoi on tend aujourd'hui. On dit, on est exact à peu de choses près avec la différence qu'on a capitalisée sur le nous. On est dans une crise institutionnelle, on est dans une crise politique où on a des blocages dans la rue, on a les comptes sociaux qui sont plus qu'au rouge. Il faut stabiliser, il faut que les partenaires reprennent, enfin que le champ politique il reprenne sa place, qu'il offre finalement cette perspective de stabilité. C'est la condition de la paix sociale. Et pour ça, le FLNKS n'a jamais dévié de sa trajectoire. Quand on parle de décolonisation, c'est ça que ça veut dire. Moi, je me suis engagé dans la députation pour rappeler aussi cet engagement à mes compatriotes députés, là-bas. Que si ces accords, ils ont été signés, nous, ici, au pays, on voit que le président ou le premier ministre, mais c'est aussi la représentation nationale qui a validé ces principes de décolonisation. C'est les deux chambres. Et par voie référendaire, donc ça veut dire que c'est le peuple en entier. Aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, on a l'État revient dessus. Nous, on n'a pas dévié, on est toujours dans l'accord de Nouméa. Et puis, on veut inscrire la suite. Donc, décolonisation, ça veut dire que l'État, il doit prendre sa part aussi dedans. Voilà, il faut penser qu'on a un pays à construire et qu'aujourd'hui, Et on a l'impression que personne ne veut prendre la responsabilité de ce qui s'est passé. C'est de la responsabilité de nous tous. Hein. Les médias aussi font partie de ce qui se passe. Les réseaux sociaux, la société civile souffre, les entreprises souffrent, les hôpitaux souffrent. OK, il faut faut prendre ses responsabilités, trouver une piste de sortie et puis...
Une piste de sortie, donc un accord dit global est possible, Emmanuel Thibault ?
Tout est possible à celui qui met les moyens. On dit que c'est possible, après il faut trouver un cadre, c'est tout.
Nous en rejoint entre-temps sur le plateau de Nouméa, Bernard Lassos, journaliste qui a couvert 30 ans de vie politique en Nouvelle-Calédonie, et Mila Koulo-Toukoumouli de l'Éveil océanien qui défend une troisième voie. Vous êtes tous les deux en direct, donc je le disais, depuis nos plateaux de Nouméa. Messieurs, bonsoir, merci d'être parmi nous.
Bonsoir.
Pour vous, Bernard Lassos,
le point avec à retenir de ce second tour, finalement, c'est que le groupe du président de la République va devoir composer avec la gauche et l'extrême droite. Le positionnement de l'État à l'égard de la Calédonie va-t-il devoir évoluer ?
Très certainement. Déjà, il n'y aura plus du tout les mêmes interlocuteurs qui étaient ceux du gouvernement que avait désigné et donc de l'équipe Emmanuel Macron. Je pense pas que le président puisse garder le dossier calédonien pour lui tout seul. Il y aura donc forcément un ministre des Outre-mer, il y aura un premier ministre qui va peut-être probablement prendre le dossier en main. Par contre, l'éventail est large. A priori, ce ne sera pas l'extrême droite avec ça pourrait être LFI, mais est-ce que ce sera un gouvernement de coalition qui va pouvoir dégager une majorité ? Ça va être très compliqué. Alors, tout ça risque de faire beaucoup d'instabilité, en tout cas, et perdre pas mal de temps dans les discussions. Est-ce que les Calédoniens vont pouvoir en profiter pour travailler entre eux, comme le disaient les élus, les deux députés élus tout à l'heure ? Ce qui serait bien, parce que avant que soit désignée une nouvelle équipe pour prendre en main le dossier calédonien, les décisions qu'il y a à prendre, elles sont nombreuses. Il y a le plan économique d'abord, parce que les promesses de Monsieur le maire, qu'est-ce qu'elles vont devenir en termes d'aide ? Il va y avoir beaucoup de choses à régler. Et puis, on sait très bien que lorsqu'il y a de l'instabilité politique, bien, ça crée de l'instabilité sociale, si en plus elle est économique. Il y a des risques que ce que l'on a connu s'intensifie ou perdure.
Mila Koulo-Toukoumouli, une question pour vous. Avec cette assemblée tripartite, est-ce qu'on doit s'attendre à des positions très extrêmes dans les prochaines négociations pour la Calédonie ?
Moi, je pense que ça va dépendre de qui sera nommé à Matignon. Parce que pour le dossier calédonien, je crois qu'il y a trois enjeux en particulier. Le premier, c'est ce que je viens de dire, c'est qui la personne. La deuxième question, c'est de savoir à quel niveau. Donc je rejoins Bernard quand il dit que aujourd'hui le dossier calédonien est géré par l'Élysée directement. Entre-temps, enfin, en tout cas historiquement, il a toujours été géré par Matignon, mais depuis le président Macron, on est descendu, on est arrivé à l'outre-mer et puis on est passé à l'intérieur. Et puis je rappelle quand même, il y a une troisième chose qu'il ne faut pas oublier, il y a quand même une mission de dialogue qui a été installée ici en Nouvelle-Calédonie. C'est trois hauts fonctionnaires de l'État qui, entre-temps, sont repartis en France métropolitaine après la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc on va attendre que tout ça se tasse. Qui va récupérer Matignon ? Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait un politique, que ce soit Matignon ou à l'Outre-mer ou à l'intérieur, qui gère le dossier calédonien. Il faut qu'il y ait une personne dédiée qui est quasiment les pleins pouvoirs, annexés à cette personne les trois hauts fonctionnaires de l'État qui géreront la partie technique, et puis on aurait un politique qui ferait la balance entre le gouvernement et l'Élysée. C'est ce que je crois les ingrédients au niveau national qui nous permettraient déjà d'avoir une visibilité sur le long terme.
Jean-François Merle, dès qu'une assemblée sera constituée, l'enjeu pour le pays sera de reprendre les travaux sur la question de la révision du corps électoral. Or, on l'a bien vu, le sortir d'un accord global a été un échec, mais il y a une contrainte calendaire quand même, la tenue des provinciales au plus tard au 15 décembre avec un corps électoral révisé. Est-ce que c'est tenable ?
La seule contrainte juridique qui existe aujourd'hui, c'est celle de tenir les élections provinciales avant le 15 décembre. Parce que ça, c'est la loi organique qui a été votée. La loi organique ne dit pas que le corps électoral doit avoir été révisé. Aujourd'hui, la révision n'a pas pu aboutir, il faudrait, et il est très peu vraisemblable, compte tenu de l'éclatement du paysage politique national, que on puisse revenir sur ce processus de loi constitutionnelle de réunion du Congrès dans les 6 mois qui viennent. Donc il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est les élections provinciales ont lieu avant le 15 décembre avec le corps électoral actuel, provincial. Et après tout, ça serait peut-être aussi une solution pour sortir de la crise, parce qu'on sent bien qu'il y a un problème de crise de représentation en Nouvelle-Calédonie. Ça a été exprimé beaucoup dans les mouvements qui ont eu lieu depuis plusieurs semaines. C'était évoqué aussi dans le discours du président Mapou au mois de juin, ce problème de... Eh bien, des élections provinciales avant le 15 décembre, ça peut permettre de créer un nouveau congrès qui aurait parmi ses responsabilités celui d'essayer de dégager un chemin pour l'avenir institutionnel. Et puis l'autre hypothèse, qui est probablement la plus préférable, c'est que sans attendre ce qui se passera à Paris, parce que ça va être très compliqué, et je doute fort, malheureusement, que la Calédonie soit forcément au cœur des priorités de la nouvelle Assemblée, du nouveau gouvernement, eh bien, ça serait que les partenaires calédoniens se mettent d'accord entre eux, trouvent, commencent à construire les termes d'un accord, et si c'est cela, alors on peut imaginer que les élections, que la loi organique soit modifiée pour que les élections provinciales soient différées le temps que cet accord aboutisse. Et voilà les deux hypothèses sur lesquelles on peut, je crois, raisonnablement aujourd'hui se placer.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Et je vous rappelle que nous nous interrogeons aujourd'hui sur l'avenir de la Kanaky après le soulèvement des jeunes Kanaks et l'élection d'Emmanuel Djibaou, un indépendantiste, à l'Assemblée nationale.
Bernard Lassauce, un élu indépendantiste, c'est une première depuis Roque Pidjou en 1978. Depuis, d'autres ont essayé, sans succès. Où s'est fait la différence ?
Ouais, il s'agit, je pense, déjà la première raison, c'est vrai que le taux de participation a beaucoup, a priori avantagé les indépendantistes, parce que cet électorat-là qui s'est déplacé en nombre, aussi bien d'ailleurs, on l'a vu dans la première que dans la deuxième circonscription. Mais je pense qu'il y a également la personnalité d'Emmanuel Djibaou. C'est un nom, c'est une personnalité qui a issu de la société civile, donc qui n'a pas par rapport aux politiques un passé, et éventuellement avec, on pourrait dire entre guillemets, des casseroles ou une mauvaise image. Et puis, il y a son discours pendant la campagne qui a été axé sur le dialogue, la détente. Donc, il y a peut-être aussi une volonté des Calédoniens de faire, et là, Mila Kulotu-Kumuli à mes côtés l'a prôné, savoir un équilibre dans la représentativité calédonienne. On l'a vu au Sénat. C'est arrivé il y a quelques de l'an dernier. Et donc, du coup, on retrouve ce même équilibre maintenant à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un député de chaque bord pour, à la limite, deux bords qui sont de même niveau.
Jean-François Merle, en réaction peut-être à ce que M. Tukumuli vient de dire, vous avez participé aux accords de Matignon ou Dino. Vous avez à ce moment-là réuni les gens autour de la table. Qu'est-ce qui a fonctionné en 1988 ?
Oh, je ne crois pas qu'on puisse projeter sur la situation d'aujourd'hui ce qui s'est passé il y a plus de 35 ans. C'est un contexte complètement différent. Et comme le disait tout à l'heure Emmanuel Djibaou, pendant ces 35 ans, les Calédoniens ont appris quand même à construire ensemble un certain nombre de choses. Moi, ce que j'observe, c'est que les électeurs, hier, ils ont procédé à un rééquilibrage de la représentation de la Nouvelle-Calédonie, et ils ont procédé à un deuxième rééquilibrage, c'est que la semaine dernière, M. Metzdorf disait que le deuxième tour, ce n'était pas uniquement pour élire des députés, c'était aussi un référendum pour ou contre l'indépendance. Il a eu cette phrase la semaine dernière. Eh bien, le référendum, il y a eu un quatrième référendum, en quelque sorte, qui a effacé le troisième si contesté, et qui montre qu'aujourd'hui, la question de l'accès à la pleine souveraineté, elle est toujours posée. Mais elle est posée dans des conditions où il y a un équilibre entre les forces politiques, entre les communautés, et le « nous », la recherche du « nous » que prenait M. Djibaou, et qui fait écho au livre de Louis-José Barbançon et de Wallace Cotra, c'est un peu la troisième voie dont parle M. Tukumuli. Donc c'est vers ça qu'il faut aller. Et je crois que ce qu'il y aurait de le pari sur l'intelligence dont rêvait Jean-Marie Djibaou, eh bien, il serait qu'aujourd'hui, les Calédoniens, par eux-mêmes, sans forcément attendre de concours extérieur, dessinent le chemin à parcourir pour trouver les conditions d'un partenariat avec la France, de quelque chose qui offre à la fois les garanties de la République et aussi l'affirmation du destin propre d'un pays océanien dans le Pacifique. C'est ça le chemin qu'il faut essayer de trouver aujourd'hui. Et ce que peut-être... une fois que... Si les Calédoniens arrivent à dégager ce chemin, je suis sûr que l'État retrouvera son rôle de partenariat et d'accompagnement pour le faire. Et finalement, l'Assemblée nationale et le gouvernement seront probablement assez heureux que la solution se dégage, alors qu'ils eux-mêmes seront confrontés à tellement d'autres difficultés et tellement d'autres questions à traiter.
Vous venez d'entendre Jean-François Merle. Jean-François Merle a travaillé auprès de Michel Rocard dans les années 1970 et il a suivi la négociation et la mise en œuvre des accords de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie en 1988. Comme Michel Rocard, Jean-François Merle espère que les indépendantistes et les loyalistes réussiront à s'entendre pour reprendre le chemin de la décolonisation. Mais comme tous les hommes politiques français, Jean-François Merle semble ignorer le rôle essentiel de l'État français. C'est la France qui a colonisé la Nouvelle-Calédonie et c'est seulement la France qui pourra la décoloniser et lui permettre d'accéder à l'indépendance. Il faudra que le gouvernement français prenne enfin ses responsabilités pour éviter que les tensions qui ont ressurgi après les émeutes de ces derniers mois ne fassent de nouvelles victimes. Le 9 juillet 2024, on apprenait encore que de nouveaux affrontements entre les forces de l'ordre colonial et de jeunes Kanaks avaient eu lieu dans la région de Nouméa. Les jeunes Kanaks sont conscients des difficultés qu'ils rencontrent dans un pays qui n'a pas encore trouvé la paix. Je vous propose d'écouter d'ailleurs à ce sujet ce que disait une jeune Kanak d'Ouvéa sur une chaîne de télévision privée de Nouvelle-Calédonie.
Margie Adjoniob, bonjour.
Bonjour.
Margie, vous êtes une influenceuse, un professeur et une entrepreneuse Kanak originaire d'Ouvéa. Vous êtes créatrice de la marque calédonienne Independent Gial 2.0. À vos heures perdues, vous êtes aussi animatrice pour un magazine touristique diffusé sur Calédonia, Coup de Brousse. On va faire genre qu'on se vous voit, mais en vrai, on se connaît un peu. En général, on se voit dans des tournages un peu plus sympas.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vécu, ce dont tu as été témoin ces dernières semaines depuis le 13 mai 2024 ?
Alors, ce que j'ai vécu, c'est une insurrection, un petit peu ce que je dirais dans les quartiers populaires de Nouméa, surtout du peuple premier, qui est le peuple Kanak. Ce que j'ai vu, ce sont des jeunes océaniens, des jeunes mélanésiens, qui se sont embrasés et réveillés face à une décision qui a été prise à 22 000 kilomètres, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale en France, par rapport au dégel du corps électoral. Et c'est à partir de cette décision-là, en fait, qu'il y a eu l'embrasement de Nouméa. Et donc, moi, ce que j'ai vu, c'est ce sont vraiment des jeunes aussi qui se sont réveillés et qui se sont exprimés par la colère, par la violence, pour aussi dénoncer les inégalités. Je parle d'inégalités sociales, je parle d'inégalités de chance à l'éducation, je parle aussi, je pense, beaucoup de préjugés, s'il faut dire, du racisme. Que connaissent ces jeunes-là pour un exemple tout simple, chercher du travail. Mmh. On regarde ton nom de famille d'abord, on regarde ta tête. Et je pense que c'est un mix de tout, de ce que j'ai vu depuis le 13 mai. C'est vraiment un mix de tout qui a fait que ça a explosé. Mmh. Donc il n'y a pas que la politique, il y a aussi, le climat social aussi, un ras-de-bol de la jeunesse kanak et océanienne. Des quartiers populaires, comme ici on entend beaucoup quartier nord, quartier sud, c'est ça que moi j'ai vu depuis le 13 mai. Mmh.
Mais là je te parle personnellement en tant que Français, moi personnellement tu vois, j'ai mal au cœur, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on ne fait pas semblant aussi envers la jeunesse kanak, on a le sentiment de dire aux jeunes kanak viens à l'école avec moi, viens travailler avec moi, on partage, etc. Il est où le bug dans le logiciel ?
Moi, je suis professeur. Je vais déjà te dire, le bug, c'est à l'école, l'éducation. Mmh. L'éducation n'est pas adaptée. Je suis désolée, mais l'éducation n'est pas adaptée. On passe plus de temps avec vos enfants que vos enfants passent du temps avec vous à la maison. Mmh. Et on les met dans des cases, dans des classes, avec des murs. C'est pas adapté. Chaque éducation doit être adaptée à une population. Et même si, si toi, tu es là et tu dis, viens, on travaille ensemble, viens, on fait l'école ensemble ou quoi que ce soit, moi, je suis désolée, on n'apprend pas notre histoire à l'école. Donc, ça commence par là. On commence, il faut aller vers les fondements. Il faut aller vers les fondements de l'estime de soi du peuple kanak et du peuple océanien. Comment ils sont arrivés ici? Et il y a même le peuple javanais, le peuple indonésien, même les peuples, le peuple français qui a été un peuple de bagnards, qui eux ont été exclus de France pour venir justement avec des travaux forcés. Mais est-ce que nos enfants là maintenant ils le savent? Je crois pas. Moi j'ai été à l'école, j'ai jamais appris mon histoire. Mais nous chez les Kanaks, on a la transmission à l'oral. Donc heureusement que j'ai mes grands-parents, que j'ai mes parents, que j'ai mes tontons, j'ai mes tantines qui parlent. On parle de ça. Peut-être de leur point de vue aussi, mais moi, de mon côté, j'ai été chercher aussi des informations. Mais jusqu'à présent, le bug, il vient de là. Si tu veux aller quelque part, il faut déjà savoir où tu viens, d'où tu viens. Qui es-tu? Comment t'es arrivé ici? À qui tu appartiens? Pourquoi tu es là? Et c'est ça, en fait. Donc, l'éducation, le système éducatif, pour moi, n'est pas adapté déjà à la mentalité d'ici. Et aussi aux us et aux coutumes.
On l'a dit en intro, t'es aussi entrepreneuse.
Oui.
Là, l'économie, elle est massacrée.
Complètement.
Mais complètement. Toi, en termes de chiffre d'affaires, tu l'as déjà ressenti, j'imagine.
Oui.
On va mettre, je ne sais pas combien de temps à s'en relever, 1 milliard 5 d'euros de dégâts déclarés aux assurances, un Calédonien sur 4 au chômage, enfin... Et encore, peut-être que le pire est à venir. Fallait vraiment en arriver là.
Est-ce qu'il y avait eu d'autres solutions? Est-ce que c'est vraiment la question? Enfin, il faut penser un peu plus loin. Bien sûr, tout le monde, quelqu'un de sensé dirait, ben bien sûr que non, il ne fallait pas en arriver là. Mais est-ce que les gens là-haut, ils ont pensé à justement éviter? On arrivait là, et après ça fait quoi? Ça fait les victimes. Alors que ça aurait pu être évité, mais ça on l'entend depuis bien longtemps. Bien sûr qu'on ne peut pas en arriver là, à avoir 1 milliard d'euros en termes de chiffre d'affaires, d'entreprises perdues,
de dégâts
et tout, quoi que ce soit. L'économie est en train de chuter. Il y aurait pu avoir, comment dire... Ça aurait pu être évité, mais j'en ai marre d'entendre ce genre de discours. Vas-y, je suis... Ça y est, on ne peut plus arriver, on ne peut plus refaire machine arrière. C'est arrivé. Le truc, c'est qu'il fallait penser au moment. Fallait penser au moment T, là, que telle décision... La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Notre vie est déterminée par le choix qu'on fait. Et derrière chaque choix, il y a des conséquences. Ils ont fait un choix. Il y a eu des conséquences. Point barre. Ils auraient fait un autre choix. On n'aurait peut-être pas eu tout ça. Tout est une question de choix. Voilà pour moi. Pour moi, ça, c'est clair. Maintenant, on fait quoi? On se relève. On se bat pour notre pays. Ceux qui aiment leur pays restent. On se bat. Ça se trouve, moi, je vais partir d'ici. Je ne vais même pas voir mon pays encore se relever après ce drame. C'est un drame. Mais bon, qu'est-ce que je fais? Je plie mes bagages, je pars. Non, j'appartiens à cette terre. J'ai un clan, j'appartiens à un clan, j'appartiens à une famille. J'aime mon pays, je vais rester. Puis on va essayer de se relever, même si mon chiffre d'affaires, même si mon entreprise, peut-être que je vais mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'année, peut-être pas. Mais tout dépend de mon choix. Moi, je choisis de croire en moi, je choisis de croire en Dieu, je choisis de croire en mon peuple, et puis de continuer. C'est mon choix. Voilà.
Ta marque, Independent GL 2.0, c'est une marque féministe?
Je ne sais pas si je peux appeler ça féministe, parce que j'aime pas trop le mot féministe. Independent GL 2.0 veut dire femme indépendante 2.0, mais ce n'est pas une marque pour dire que nous, les femmes, on peut y arriver toutes seules. Au contraire, c'est une marque qui met en avant la solidarité entre l'homme et la femme. Le vivre ensemble. Et que la femme, elle a des rêves, Et le plus grand soutien que la femme, elle a, c'est son homme. C'est l'homme avec qui elle partage sa vie, avec qui elle parle le soir. Et Independent Girl 2.0, c'est la prise de conscience d'une femme qu'elle a d'elle-même, de sa valeur. Avant de vouloir aller chercher la valeur avec un homme ou quelqu'un d'autre, qu'elle prenne conscience de qui elle est, que c'est une reine, que c'est une femme qui chute 7 fois, qui se relève 8 fois, la couronne, elle bouge pas. C'est une femme qui s'entoure bien, mais avec son homme. Parce que je dis souvent mais, quand j'interviens dans les tribus ou dans les classes ou dans des conférences, que je dis souvent aux hommes, ah mais ne sous-estimez pas votre parole, ne sous-estimez pas vos encouragements, parce que quand ça sort de quelqu'un qu'on aime, ça nous donne une puissance fois 1000. Et ça, c'est très connu. Donner de l'amour à une femme, elle vous le rendra fois 1000. Donner une maison à une femme, elle vous rendra un foyer. Et ainsi de suite. Et c'est ça, Independent Girl 2.0, c'est d'encourager. C'est une marque qui encourage, une marque qui donne la force, mais aussi une marque qui réveille en fait la conscience des jeunes femmes pour dire que non, vous ne pouvez pas faire ça toute seule. Je ne peux pas le faire toute seule. Je peux le faire avec toi. Donc, voilà.
Si le système français il s'est pas suffisamment mis à jour, est-ce que le système coutumier, lui, s'est suffisamment mis à jour?
Non. Clairement, non. Parce que, justement, on vient de parler de ma marque, et la charte Kanak, à aucun moment, on parle de la femme dedans. Peut-être qu'ils l'ont oublié, je sais pas. Mais je pense que dans notre culture et dans notre coutume, la coutume Kanak et la culture Kanak est très pudique. Mmh. Elle est très, très, très pudique. La femme, elle a pas la parole. Et moi, je suis OK avec ça. Elle a pas la parole pendant les coutumes ou quoi que ce soit. Mais quand l'homme arrive à la case, à la maison, c'est la femme qui va parler, qui va encourager son mari qui est coutumier, qui a un rôle important à la tribu, dans son district, dans son île, dans le lieu qui lui a été donné par les grands. Et je pense qu'il faut avoir il faut faire une mise à jour justement avec des jeunes femmes Kanak et aussi les aînés, mais aussi les plus jeunes, parce que non, jamais. Les enfants, ils ont des idées de ouf. Encore une fois, je suis dans l'éducation. Et demander à un enfant ses idées pour justement la culture ou la coutume, et à travers son regard, à travers ses mots, ben ça va. Je pense que ça fait avancer. Et quand vous mettez 3 générations qui échangent sur un sujet, par exemple la coutume Kanak, mais ça, je pense que ça peut changer des choses, vraiment. Et autant le système français que la coutume doivent être remis à jour avec des personnes qui ont la vision, une vision d'un peuple où on est ensemble. Mais ça respecte toujours on va dire le mode patriarcal, mais sans pour autant, voilà. Mmh. Oui. Moi, je veux pas jouer le chef de famille. Non, je suis une femme. J'aime mon énergie féminine. J'aime prendre soin de moi. Je veux que mon homme, voilà. Mais le respect, c'est dans les deux sens. L'amour, c'est aussi ça. Je vais pas faire le bonhomme alors que, vas-y, moi, je suis une femme, je suis belle. Je suis là pour assurer l'éducation à la maison, les enfants. Je suis là pour que mon homme me regarde et puis m'encourage. Et je suis là pour l'encourager aussi. Quand il y aura des coutumes, c'est lui qui va parler. J'en serai fière. Non, on est là-bas derrière la cuisine et tout. Mais le respect, il est là. C'est dans les deux sens. Et on se préserve. C'est une culture, c'est une coutume qui est pudique. Donc voilà. C'est ma pensée.
Ouais. Tu as partagé beaucoup de choses sur les réseaux depuis le début de tout ça. T'as partagé au moins 2 textes que j'avais envie de te lire. T'en as partagé un premier, peut-être que t'arriveras à me dire qui c'est qui l'a écrit. Je t'en lis quelques extraits.
Oui.
Ça crie Kanaki partout sur Nouméa, vous pensez être en train de faire avancer le pays vers l'indépendance et le nom dégèle. Alors vous êtes juste en train de décrédibiliser la lutte et approfondir le stéréotype sur nous, la jeunesse de Kanaky. Arrêtez de crier « nique la France » à Bam Macron et tout ça, là. C'est la France qui va réparer les dégâts. C'est la France qui va nourrir vos familles. Ne pensez pas que je suis loyaliste. Je suis Kanak et indépendantiste. Mais je ne suis pas avec vous dans ce que vous appelez votre lutte. Après, t'en as partagé un autre.
Oui. Quand je vais d'abord rebondir sur cela.
Vas-y.
Celui-là, j'avais vu sur Facebook. Et je trouvais que c'était poignant et réaliste. Dans le sens où... moi, je suis de cette génération-là qui lutte autrement. Mmh. Comme Jean-Marie Tjibaou l'a dit, on a fait le pari de l'intelligence. La lutte, c'est dans les stylos, on va dire ça. La lutte, c'est dans les stylos. On aurait pu rester au mot d'ordre qui a été donné, c'est-à-dire juste faire des barrages, pas tout cramer, et dire qu'on n'est pas d'accord avec le texte du corps, le dégel du corps électoral. Donc c'est un texte que une femme indépendantiste a mis sur Facebook. Et il y a eu beaucoup de commentaires. Il y a eu beaucoup de commentaires haineux. Il y a eu beaucoup de gens que... Mais moi, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Et puis déjà, quand on prend la parole, on sait déjà qu'on fera pas l'unanimité. Et c'est un texte que, oui, j'ai osé partager sur mes réseaux. Parce que je sais que je suis une personne influente. Et que j'assume entièrement... Parce que je suis pas d'accord avec ce genre de lutte-là, mais je comprends. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet que je ne peux pas te comprendre. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet que je ne t'aime pas. Au contraire, je partage mon avis, tu partageras ton avis, et c'est comme ça qu'on va grandir ensemble. Moi, mon avis à moi, c'est que la lutte, on aurait pu la faire autrement. Le vote, les stylos, les diplômes, changer le système éducatif qui n'est absolument pas adapté à la jeunesse, qui aurait pu éviter tout ça.
Ils valent quoi, les référendums? Tu parles de vote.
Le vote, le troisième référendum, il vaut rien, pour moi. Mm-hmm. Pour moi. On en a discuté, moi je viens d'Ouvéa. Mm-hmm. C'est très bien ce qui s'est passé là-bas à IAI. Mm-hmm. Et le troisième référendum, personnellement, même si légalement, noir sur blanc, sur papier, c'est passé, pour moi il ne vaut rien. Je vais te dire pourquoi. Le matin où il fallait voter, nous, on était à table avec mes parents, puis mes sœurs. L'année du Covid, c'est les vieux océaniens et bélanésiens qui ont ramassé.
Oui, le plus.
Le plus. Mon père, il a perdu ses cousins germains puis ses cousines germaines. Il a perdu des frères et sœurs avec qui il a grandi à la tribu. Et nous, chez les Kanak, il y a tout un processus à respecter concernant le deuil coutumier. Il y a un deuil, il y a les tontons qu'il faut. Et on ne pouvait pas le faire à ce moment-là. Je suis d'accord sur le fait que ce sont les indépendantistes qui ont avancé la date du référendum du troisième. Mais qui avait prévu qu'il y aurait eu une pandémie mondiale? Qui aurait pu... Moi, je suis d'accord dans le sens où il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est pour ça qu'il avait avancé. Moi, j'ai joué le jeu. Je me suis dit, OK, ils avancent, ils prennent un risque. Il n'y a pas de souci. On fait le boulot, nous, la jeunesse. Les réseaux, la com, le marketing, tout ce qu'on veut. Mais là, quand la pandémie est arrivée, nous, on était à table. Moi et mes sœurs, on est activistes. On est toutes profs. Mes parents sont enseignants. Dans notre famille, la plupart sont enseignants. Et on a demandé à papa, « Pa, c'est comment ?» Les marres voter. Je dis, « Mais bon, vous allez voter, mais on n'a même pas encore enterré les tchitchas, puis les baillis. Tu crois que moi, je pense à ça ?» Il n'y avait même pas d'histoire politique à ce moment-là. Il n'y avait pas de ça. Et moi, je me suis mise à la place de mon père. Je me suis dit, attends, mais moi, je grandis en ce moment avec mes cousins germains, avec mes cousines germaines. Dans 20 ans, dans 30 ans, je les perds et il y a encore une autre pandémie. Comment je vais faire? Il y aura un X référendum. Tu crois que j'aurai la tête à me mobiliser pour ça? Non. On a tout un processus qui n'a pas été respecté. Donc pour moi, il ne vaut rien. Pourtant, nous, on était chauds, hein, moi et mes sœurs, toute la clique, on prenait nos caisses et bam, on allait voter. Le vieux, il a dit non. Ils n'ont pas respecté le deuil coutumier kanak. Pourquoi non, on va respecter la date du troisième référendum? Et ils ont joué sur le fait que ce sont les indépendantistes qui ont... OK, mais où est passé l'humain dans tout ça? Donc bien sûr, pour moi, le troisième référendum ne vaut absolument rien. Moi qui suis activiste, moi qui ai du poids sur les réseaux. Parce qu'à partir du moment où tu manques d'empathie, à partir du moment où tu manques d'être à la place de cette personne-là qui a vécu autrement, qui a des us et des coutumes autrement que toi, ne viens pas me parler de respect à ce moment-là.
L'autre texte.
L'autre texte, merci.
Au départ, il y a je sais pas, deux semaines, je te dis, bon, on essaye de dépolariser un peu les esprits. En ce moment, c'est très polarisé quand même. Je veux dire, les amalgames, ils vont bon train, là.
Oui.
Il y en a plein qui se sont mis à voir la vie en noir et blanc.
Oui. Genre nous deux.
Non, Seb, nous, ça va.
Ouais, ça va.
On a peut-être failli se friter à un moment donné ou deux pendant le truc. Vous n'êtes pas vraiment d'accord sur tout.
C'est très bien.
Oui, c'est très bien. Mais ça va, on se parle. Donc ouais, je te disais, à ce moment-là, j'essaie de voilà, faire des appels à la paix, des gens pour dire wow, « calmez-vous, là, ça va trop loin ». Et tu m'as répondu en m'envoyant un texte. Je te relire quelques extraits. Il est de qui, ce texte?
Il vient d'un indépendantiste jeune.
Ok. Et donc par rapport aux appels à la paix, ça commence comme ça. « Les appels à la paix sont, dans le contexte actuel, une nécessité ». Mais de manière insidieuse, vicieuse et indécente, ces appels surfent sur le sang de nos morts qui n'a pas encore séché. Aussi sincères soient ces appels à la paix, ils se font sans les conditions de son retour durable et sans les conditions de son épanouissement. Demander la paix sans reconnaître que la loi sur le dégel est injuste, bien que légale, c'est de l'hypocrisie. Demander la paix sans s'engager dans une lutte contre les discriminations et la misère sociale, c'est de l'hypocrisie. Demander la paix sans vouloir réformer le système scolaire, c'est de l'hypocrisie. C'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre. Demander la paix en levant son verre sur les baies de Nouméa, c'est le summum de l'hypocrisie. Et surtout, tout cela, c'est révélateur des véritables raisons derrière les demandes de retour à la paix. Le maintien des privilèges, du confort, les baies. D'un système qui a failli à installer la paix, de la situation coloniale, d'une école et d'un système scolaire injuste. En clair, beaucoup demandent la paix sans changer les choses qui l'ont tué.
Rien à ajouter. Hier, j'ai eu un coup de fil. J'ai eu un coup de fil par rapport au fait si je pouvais utiliser mes réseaux pour demander la paix. J'ai dit hors de question. Je suis consciente que la paix, elle est nécessaire. Mais tant que je vois encore des inégalités... comment demander la paix si là où ils n'ont pas fait la paix encore, les politiques et tout. Mais je suis consciente qu'hier il y a eu la marche pour la paix des tours de Magenta. Je suis consciente que les mamans ont fait une marche pour la paix aussi.
Mais c'est quand même un préalable à tout débriefing. Ok, il faudra un débriefing énorme sur ce qui s'est passé.
Oui.
Mais le préalable à ça, c'est quand même la paix.
Oui, bien sûr. On a fait. On appelle la paix parce qu'il y a eu une guerre. S'il n'y avait pas eu une guerre, on n'aurait pas appelé à la paix. C'est totalement logique. L'un ne va pas sans l'autre. Mais pour moi, oui, je suis d'accord. Demain, on va manifester, on va mettre le drapeau blanc, la paix et tout. Mais
si c'est pour rien ne change.
Mais si c'est, voilà, absolument.
Okay.
Et si c'est pour attiser encore la haine, je suis désolée. Regarde encore hier. Encore hier, on est parti manger avec mes petits cousins. Et ils ne voulaient pas aller manger dans les quartiers sud, à Lanzvata ou en B.
Ah ouais.
Parce que ça leur procurait une haine de voir que là-bas, ils vivent comme s'il ne s'est rien passé depuis un mois. Et tu veux avoir la paix comment? Si déjà dans le cœur, ça boue, c'est la guerre dans le cœur, dans le mental, ce n'est pas comme ça qu'il faut. Tu veux avoir la paix comment? Quand on parle de paix, c'est une paix psychologique et émotionnelle d'abord. Il faut être aligné. Penser, dire, faire. Si toi, là-haut, là, ça ne va pas parce que tu vois... Mes petits cousins, ils n'ont même pas encore 18 ans. Et quand ils voient ça, et quand tu retournes là-bas, tendu, caméré, DSM, où tout est cramé, où là-bas, il n'y a même pas un seul bar...
C'est un champ de ruines.
Après, ils vont dire, ouais, mais c'est vous qui avez tout brûlé, c'est vous qui...
Ouais.
Voilà. Nous, on s'est préservés, nous, on n'a pas bougé, nous...
Mais on a vu.
Voilà, tu vois. Là, tu attises encore. Tu attises quoi? Tu attises pas la paix, hein. Tu attises la haine. Tu plantes pas des graines de paix et d'amour. Hein.
Et maintenant, comment on fait pour dépasser tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour changer de système? Qu'est-ce qui compte désormais? Faut aller voter?
Complètement. En ce moment, je suis très active sur mes réseaux pour appeler la jeunesse à aller voter le 30 juin et le 7 juillet. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un taux d'abstention de 54% en 2022 lors des élections législatives pour élire les deux députés. Mmh. Même si les personnes vont dire « ouais, ça sert à rien de voter, mais ton vote compte. » Un vote, une balle. Plat. Direct. Tu votes pas, ta balle, elle reste encore là, dans le chargeur. Quelqu'un d'autre va l'utiliser. Donc lève-toi, va commencer à voter. Et faut pas oublier que nos vieux se sont battus pour avoir le droit de vote. Mmh. Après, je suis d'accord avec la phrase de Coluche. Hein. Si voter changerait réellement quelque chose, on nous l'interdirait. Mmh. Oui, mais si on peut voter pour le moins con. Je suis désolée, pardon. Tu peux couper à ce moment-là, mais je pourrais voter pour...
C'est un échec politique, ce qui s'est passé?
Complètement. Ils ont tous échoué, autant les indépendantistes que les loyalistes. Pardon, mais Non, pas pardon. Je trouve que c'est nous, la jeunesse, qui en pâtit.
C'est tous les petits qui en pâtissent, là.
Complètement. Alors que normalement, dans ce pays, c'est... Je sais pas, tu fais bien à ton petit frère, à ta petite sœur. L'humilité précède la gloire. L'orgueil mène à la chute. Et on a bien vu que c'était une guerre d'ego. Alors que dans le pays, c'est respect, humilité. T'es là, t'es censé élever tes petits frères et tes petites sœurs. T'es censé les encourager. T'es censé les amener à un autre niveau pour qu'ils soient plus hauts que toi plus tard. Tant au niveau professionnel qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau mental, tout doit être... C'est eux l'avenir du pays. C'est la bonne, là. Les 13-14, les 10-12, les 8-9 ans. Donc, si... Je pense que si l'être humain n'avait pas d'ego, on serait tous là à vivre en peace and love, tu vois. Mais je pense que la politique est devenue une guerre d'ego et que les égos des deux parties ont pris le dessus et que l'orgueil mène à la chute. Et la chute, on l'a bien vue, là. Donc maintenant, faut peut-être trouver quelqu'un qui a assez d'humilité pour tout reconnaître et puis reconstruire sur ça.
En conclusion, quel message tu aimerais adresser à tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie?
Il y a trois choses qui demeurent. L'amour, la foi, l'espérance. La plus grande des choses, c'est l'amour. Restez unis. L'amour, c'est une émotion. On parlait d'émotion tout à l'heure. L'amour, c'est l'émotion et une sensation puissante. Par amour, on peut tout faire. Ou on peut tout détruire. Donc choisissez l'amour. Choisissez aussi de bénir au lieu de maudire. Faites un choix. Choisissez de réellement avoir confiance en vous et de croire en vous. Et de croire en ce pays, et de croire en nous aussi, la jeunesse. Si je devais adresser un mot à toute ma communauté, toute la jeunesse, tout le pays, ça serait de continuer de croire en nous-mêmes et de croire qu'on peut reconstruire. Et de ne pas lâcher. Je dis des phrases bateau, mais c'est tellement vrai. La persévérance, c'est la clé de la réussite. La communication, c'est la clé de la réussite. C'est ça. Donc persévérons tous ensemble et puis on verra. Il n'y a que celui qui reste qui verra, franchement.
Gardez espoir.
Gardez espoir, exactement.
Margie Adjouniop, merci.
Merci à vous.
Garder espoir, disent les jeunes de Kanaky. Alors en France, nous avons la responsabilité de ne pas les décevoir et de leur permettre de vivre bientôt dans un pays indépendant où tout le monde se respecte. Alors nous arrivons à la fin de notre émission. Nous terminerons d'ailleurs par une chanson kanak et je remercie Frédéric qui assure la diffusion de nos émissions Civispakem. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Aujourd'hui, nous relevons le défi et nous levons ce drapeau. Le vert, symbole du Kanaky, vert du pays Kanaky. Le rouge, symbole de la lutte du peuple Kanaky, symbole de notre d'unité. L'unité du FLNKM. Et projet d'unité avec tous ceux qui accepteront la République de Kanak-Kanak.
Illumine la plage verte. de tout ce qui est boutiquier. Par bonheur et...
C'est Éric Coquerel, bonjour.
Bonjour.
Député réélu dimanche dernier, NFP LFI de Seine-Saint-Denis.
Il y a deux semaines.
Ah oui, c'est vrai, au premier tour. Félicitations. Qu'attendez-vous? Pourquoi c'est si long? Pardon, hein, je vous pose la question, mais sans malice, hein, qu'attendez-vous? Vous voulez le pouvoir, vous dites, on est arrivé en tête dimanche dernier, nous sommes jeudi, on n'a toujours pas le nom du futur ou de la future Premier ministre, alors il y a des réunions, c'est pas trop ce qui s'y passe, vous avez pourtant un programme déjà, pourquoi c'est si long? Pourquoi vous voulez laisser la place aux autres en fait?
Déjà on avance, vous pouvez remarquer.
Vous avez avancé sur quoi?
Beaucoup. Bah... On nous avait dit, vous arriverez pas à faire l'unité.
Comme ça, fait. Ça c'était avant.
Oui. Mais je vous refais le match parce que sinon, on a tendance à un peu oublier la manière dont les choses s'accélèrent. Moi-même d'ailleurs, hein, quand je vois, je me dis que l'élection c'était dimanche, j'ai l'impression que c'était déjà il y a un mois. Bon. Donc vous arrivez pas à faire l'unité, on l'a fait. Vous arriverez pas à faire un programme, on l'a fait. Vous arriverez pas, nous a-t-on dit, à faire un chiffrage, etc. On l'a fait, on est même les seuls. Les autres les ont pas fait. Le dimanche après, on nous a dit, vous n'arriverez pas à gagner, on est devant. Et puis après, si vous gagnez, vous allez voir, en réalité, vous allez vous éclater tout de suite. Il y en a qui vont aller dans une grande coalition avec les macronistes, d'autres non. Ça n'a pas été le cas.
Bah, on sait
pas. Ça n'a pas été le cas. Ah non, non, je vous le dis. Vous me demandez, vous posez des questions. Je vous dis, c'est pas le cas. Ça sera pas le cas.
D'accord. Donc, c'est pas le cas aujourd'hui.
Non, c'est pas le cas demain non plus.
Vous êtes sûr?
Peut-être vos espoirs, mais c'est pas le cas demain.
Vous êtes sûr que les socialistes vont pas vous lâcher?
Non, absolument. Donc maintenant, on a quand même bien avancé. On est en train de travailler, je peux vous le dire, de manière efficace et concrète à l'architecture d'un gouvernement. Il reste le nom. C'est là-dessus que les discussions ont lieu. Moi, je pense que d'ici la fin de la semaine, il y a un nom.
Elles sont difficiles. Voilà. À la fin de?
D'ici la fin de la semaine, il y a un nom.
D'ici vendredi.
D'ici week-end, il y a un nom. Ouais,
parce que Sandrine Rousseau elle-même, elle dit il faut accélérer, les gars.
Oui, elle a raison, mais il y aura un nom.
Sandrine Rousseau comme président de l'Assemblée aussi.
Non, mais ça, c'est autre chose.
Elle s'est proposée, mais c'est...
Pourquoi il y a des difficultés? Quelle est la méthode sur le nom? Parce qu'on n'a pas compris comment vous allez désigner ce nom.
Bah, c'est simple. En fait, nous, on pense que la meilleure manière de régler rapidement l'affaire, c'est d'avoir une règle et de s'y tenir. Voilà, c'est ce qu'on met sur la table. La règle de la Ve République, et d'ailleurs que Olivier Faure avait repris il y a quelques semaines de ça, c'est dans une coalition, le président de la République prend le nom... du groupe en tête dans la coalition. Ça a toujours été le cas. Toutes les cohabitations. Le groupe en tête, au moment où on se parle, et ça sera le cas dans une semaine encore plus, c'est France Insoumise. Donc nous, on dit, respectons cette règle.
Non. C'est le NFP. C'est pas la France Insoumise.
Oui, mais chacun a son groupe.
Non, chacun a ses groupes. Donc, respectons cette règle. D'accord. Ça irait le plus vite.
Mais sauf que les autres ne veulent pas.
Pour l'instant, en tout cas, certains d'entre eux ne veulent pas, notamment le Parti Socialiste. Et donc, les discussions sont là-dessus. Et comme toute discussion...
Comment vous allez trancher ça? Parce que ça va être difficile.
Vous allez voir, on va y arriver. Comme on a tranché le programme, comme on a tranché l'unité, comme on a tranché la répartition des circonscriptions, c'était pas si simple. Et donc, je vous dis que d'ici la fin de la semaine, vous verrez, on aura un nom. La question n'est pas là. Parce que je vois bien... et de la part de Emmanuel Macron, la tentative, qui est un peu d'inverser le problème. C'est-à-dire laisser penser que c'est nous qui serions pas prêts, alors que manifestement, avec sa lettre hier, il essaye de biaiser avec le suffrage universel.
On va y revenir. Avec cette lettre, mais Gérard Larcher, ce matin, invité d'RMC, dit « S'il y a des insoumis dans un gouvernement, j'appellerai à faire barrage, en tout cas, à voter une motion de censure. » Donc en gros, puisque vous n'avez pas la majorité, si vous arrivez au pouvoir, au bout de 15 jours, vous tombez à cause d'une motion de censure, il n'y a pas ce risque, et finalement, on ne pourrait pas appliquer votre programme.
Alors,
vous avez entendu cette menace?
Oui, j'ai vu Gérard Larcher l'a dit. Contrairement à vos titres de l'émission, c'est pas dans la lettre de Macron, je le dis comme ça.
Oui.
Il n'y a pas ça dans la lettre de Macron.
Non, non. Hein.
Et hier, j'ai vu un communiqué de ce qui reste du groupe Ensemble. Je dis ce qui reste parce que je viens d'entendre sur l'antenne BFM à côté, monsieur Legendre, qui était du groupe Ensemble, montrer que la division, pour l'instant, elle est chez eux.
Après, les plus députés.
Dire aussi la même chose. Mais alors là, moi, je les alerte, mais vraiment solennellement, quoi. Ils ont joué avec le Nini pendant des années. Ils ont banalisé le Rassemblement National. À cause de ça, on a failli se payer l'extrême droite dans ce pays. Si on ne s'est pas payé l'extrême droite de pays, c'est que le Nouveau Front Populaire, et en l'occurrence en premier LFI, a expliqué que nous allions retirer tous nos candidats, sans condition, dès lors qu'ils pouvaient faire élire un député RN de plus, plus barrage.
Et inversement, il y a des candidats en Renaissance qui se sont retirés.
Bien sûr.
Ce qui était moins
avec,
évident.
Avec un. Bah non, je vous assure, pour que c'est moi, vous croyez que c'était évident.
Parce que jusqu'à présent,
Mme Borne,
on a toujours vu la gauche.
Darmanin, excusez-moi.
Non, mais on a toujours vu la gauche faire barrage. On avait moins vu le centre et la droite.
Dans ce sens-là, oui. Alors, même si d'ailleurs, le report était moins bon, ce qui fait que ça nous coûte au moins une vingtaine de députés.
Mais quand même été exceptionnel, puisque les sondeurs se sont trompés.
Mais vous comprendrez qu'il est quand même compliqué. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'il y a eu un débat chez eux la semaine dernière. Hein, Bruno Le Maire, Édouard Philippe commençant à dire Nini, et puis le président de la République et Gabriel Attal disant non, ça doit inclure les filles, évidemment. Donc on ne peut pas, à un moment donné, en appeler un sursaut républicain qui intègre les filles, et puis le coup d'après, tout de suite,
c'est
fini, on ne veut plus de vous. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce qu'à un moment donné, les électeurs ne suivront pas.
Comme il y a quand même ce risque de motion de censure.
Mais ça, la motion de censure, excusez-moi, mais
vous la craignez pas
pour tout le monde. Elle est encore plus risquée si jamais Monsieur Macron avait la mauvaise idée, fort peu démocratique, de proposer à ceux qui ont perdu de faire un gouvernement. Parce que là, je peux vous dire,
c'est ce qu'il veut. Vous avez vu la lettre,
d'accord. Mais je vous dis, la motion de censure, elle arrivera encore plus vite. Donc moi, je serais Gérard Larcher, qui est un responsable politique important. Je pense qu'il faut arrêter de jouer avec le feu. Voilà, mon impression, elle est là. C'est-à-dire que le président de la République a dissous l'Assemblée, c'est pas nous qui lui avons demandé. Mmh. Il a, très franchement, il a mis sur l'Assemblée sa propre responsabilité. C'est pas vraiment l'Assemblée qui a posé le plus de problèmes depuis 2 ans. C'est lui qui a posé le plus de problèmes en voulant passer en force des projets de loi alors que l'Assemblée, il n'y avait pas de majorité, donc il l'a fait. Il dissout l'Assemblée, le peuple de France est au rendez-vous. Vote comme jamais il l'a fait depuis 80, d'accord. Émet quelque chose. Il y a 2 choses qui ont été émises, et c'est là où je suis pas d'accord avec sa lettre.
Quand il dit qu'il y a que des perdants.
Personne l'a emporté. Bah, la République l'a emporté quand même. Oui. D'accord. Très majoritairement.
Il dit que personne n'a gagné. Personne n'a de majorité.
Oui, mais si. La République a gagné. Excusez-moi. Oui. Premièrement. Et deuxièmement, il y a quand même une coalition qui est en tête. Et je rappelle les propos de 2022, Monsieur Macron. Puisqu'il était dans la même situation, les élections législatives ont fait de la majorité présidentielle la première force politique de l'Assemblée nationale. Donc il faut qu'il respecte ça. Et il avait fait un gouvernement. Donc il faut qu'il fasse la même chose.
Donc la coalition, vous n'y croyez pas?
Ah non, pas du tout. Il n'y aura pas de coalition.
Il n'y aura pas de coalition.
Non, ça, je vous l'annonce à la
À contrario, merci beaucoup. N'avez-vous pas peur de la coalition entre Ensemble, les LR, Horizon et MoDem, une coalition de droite et qui deviendront le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Si je vous le dis, monsieur.
Mais ils n'ont pas de majorité, si tu veux.
Mais là, on n'a pas la majorité absolue. Quand
même. Non, on n'en a toujours pas.
Bah, fait des calculs.
Non.
Bah, LR complet.
Bah c'est 70. LR,
d'accord. Plus Macron complet, plus MoDem complet.
200
plus,
et quelques.
Voilà. 120. Et n'oublie pas.
Ça fait 220.
Excuse-moi. Et n'oublie pas une chose.
T'arrives à 220, t'arrives pas à la majorité absolue. Édouard Philippe a lui-même fait ce calcul, puisqu'il a dit ça fera 220, mais on sera quand même toujours devant la gauche. C'est ce qu'il dit, c'est son argument.
Donc, majorité relative, s'il faut.
Alors, il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée.
Majorité relative. Donc, s'ils font ça.
Est-ce que vous risquez ça à la coalition à droite?
Non, ça c'est une fiction, pour la bonne raison.
Pourquoi?
Parce que pour l'instant, c'est plutôt l'inverse qui se passe, d'accord? Vous avez Monsieur Houllier qui est en train d'essayer de constituer un groupe.
Sacha Houllier, oui.
Là,
qui quitte Renaissance, qui était président de la commission des finances.
Qui quitte la majorité présidentielle et qui est en train d'essayer de constituer un groupe. Donc moi j'observe que c'est plutôt là la division. Vous avez le groupe qui s'est constitué hier autour de Monsieur Wauquiez qui a dit « Nous ne ferons pas de coalition avec le président de la République ». Donc, dans la réalité des faits, les gens ont déjà donné leur réponse. Donc, tout ça, c'est une fiction.
Est-ce qu'Emmanuel Macron essaie de gagner du temps, tout simplement? Parce que on entendait, alors même M. Larcher le dit, il dit, attendons, laissons passer les JO, laissons passer l'été et rendez-vous en septembre.
Mais ça, c'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi. Mais parce que, il se trouve, et c'est pas nous qui sommes responsables, c'est lui qui a installé le calendrier, la dissolution, le calendrier.
Oui.
C'est lui qui a décidé une dissolution avant les Jeux Olympiques.
Oui.
Chacun s'est dit, qu'est-ce qu'il fait, quand même?
Oui.
Hein, bon. Il le fait avant les Jeux Olympiques. Il organise le calendrier qui fait que le 18, 19, 20, l'Assemblée nationale va avoir des choix politiques à faire. Pas techniques, politiques.
Par exemple,
déterminer où sont les groupes. Opposition, majorité, ça a de l'importance. Moi, président de la commission des finances, par exemple, je l'étais parce que j'étais dans l'opposition.
Il y aura beaucoup de groupes.
Voilà. Donc, il peut pas faire comme si l'Assemblée devait faire des choix politiques et lui, il nous propose quelque chose de technique, ni vu ni connu. Ça ne marche pas. C'est pas possible. C'est pour ça que moi j'en appelle à lui. J'en appelle vraiment à ce qu'il fait. Si demain il s'adresse à nous, Nouveau Front Populaire. Je vais pas vous faire une langue de bois. Ça va être compliqué. Moi je pense qu'on peut faire passer déjà toutes nos mesures des 15 premiers jours. On y reviendra.
Mais pas tout le programme, parce que j'ai entendu dire tout le programme avec le programme.
L'idée, c'est d'appliquer notre programme.
Oui, mais sans majorité plus, ça sera plus
vous me demandez concrètement comment on arrive. Je pense qu'on peut le faire passer. On y reviendra après, si vous voulez. Mais ça sera difficile. Mais c'est quand même la meilleure, la moins pire des solutions, parce que c'est lui qui a mis le pays dans l'impasse. Et si jamais il ne le fait pas, ben dans ces cas-là, excusez-moi, comme l'Assemblée ne peut pas être dissoute avant un an, c'est lui qui doit se dissoudre. Hein, parce qu'il n'y a pas d'autre solution démocratique par rapport à cette question. Voilà.
Jean-Louis Bonamy.
Démissionner, oui.
Jean-Louis Bonamy.
Non, mais oui, alors justement, mais sur quelle base, quelle serait la première mesure du nouveau Front populaire?
On abroge la réforme des retraites.
Voilà, j'étais sûr que vous alliez me répondre ça, et ce n'est pas forcément, c'est pas forcément,
et comment vous
pas forcément critiqué, mais, non, mais surtout, immédiatement, mais il va y avoir une réaction des marchés financiers. C'est-à-dire les taux d'intérêt auxquels la France emprunte vont bondir. Que faites-vous?
Je ne crois pas.
Ah bon, et pourquoi vous ne croyez pas?
Et parce que c'est très les marchés financiers, ils réagissent en fonction de leurs propres intérêts.
Oui.
La réforme des retraites aujourd'hui, vous le savez, en réalité, on attend des premiers résultats de cette réforme des retraites au niveau budgétaire à partir de 2027, sérieusement. Mmh. Hein, pour l'instant, c'était un peu les études du Porsche qu'en 2027, il n'y a pas de problème, en fait. Donc là, concrètement, pour leurs intérêts propres, il n'y a pas de problème du fait d'abroger cette réforme des retraites.
Et si jamais vous vous trompez et que les taux bondissent?
Eh bien, nous verrons bien, mais figurez-vous, nous allons mettre en place une politique qui va créer moins de déficit aujourd'hui que le gouvernement passé. On peut pas.
Pourtant tout le monde dit à droite notamment ou chez les macronistes, c'est la faillite de la France si vous appliquez votre programme.
Ben c'est leur jeu comme
les patrons sont inquiets.
Voilà, mais ça c'est
logique.
C'est un classique à
gauche.
Donc quand la gauche arrive, le patronat tremble.
Juste. Nous avons fait un programme, on pense qu'il est un programme de relance.
D'accord?
On pense que ça va produire.
C'est classique de gauche.
On pense que ça va produire des cotisations, de la fiscalité. Mais on n'a pas tenu compte de ça. On fait en sorte que toutes nos dépenses sont compensées par des recettes.
Par des augmentations
d'impôts. Par des hausses d'impôts.
Je vais y venir. Par des recettes. Et ces recettes, nous les prenons, en gros, pour aller vite, aux 8-7% des Français les plus riches et principalement aux vraiment très très riches. Qu'Emmanuel Macron a avantagé, détenteur de capitaux, à la hauteur de plusieurs milliards d'euros par an. Voilà ce qu'on fait. Et cette politique-là, à mon avis, elle va être bonne pour l'activité
alors,
économique.
On va continuer
et
à en parler.
Elle va même être bonne pour les PME.
Elina Dumont.
Oui. Alors, moi, je suis pour l'humain d'abord. Je pense que ça vous parle. Et je voudrais vous poser deux questions. J'ai lu dans la presse que Madame Tondelier, bien vous prononcez, tout compte fait, disait, parce que moi, je parle que du programme. Hein. Moi,
là,
je pense que les électeurs, s'ils ont voté pour vous, c'est pour...
D'accord avec vous.
Et donc, elle a l'air de dire que tout compte fait, les 1600 euros pour le SMIC, ce serait beaucoup plus compliqué qu'il l'avait annoncé au départ. Et moi, je trouve que si tous les électeurs qui nous écoutent là entendent que tout compte fait, ça se fera jamais, ben on est déjà trompés.
Alors, je vous explique, on va le faire.
J'ai une deuxième question, mais je
vais... 1600 déjà.
D'accord. On va le faire. Et une bonne raison pour laquelle on va le faire, c'est que c'est pas seulement symbolique, c'est du pouvoir d'achat qui, selon les trébuchants, qui va aller dans les poches de millions de Français. Le problème qu'on a vécu avec 7 ans de macronisme, c'est que on a eu un déplacement des richesses dans ce pays qui, en gros, s'est dilapidé dans l'utilisation des profits de la manière la pire qui soit. C'est-à-dire une accumulation de richesses des dividendes, c'est-à-dire ce qui sert pas à l'investissement, qui sert pas à l'emploi, etc. Et ça a été pris globalement, si je résume,